Vous écoutez RTL.
Il est 15h passé de 3 minutes sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie Flamand.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre, je vous pique l'antenne, mais je vous promets de vous la rendre à 16h pour un prochain point sur l'info. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Comment aider les enfants précoces? Le QI ne fait pas tout. C'est tout de suite et c'est avec vous sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. 1, 2, 3. Ça y est, je me lance, je vais lui parler. Osez les conversations, c'était notre recommandation d'hier entre 15h et 16h en direct sur RTL. Courir le risque de parler à son prochain pour se dire trois fois rien au début, mais peut-être tellement plus après. Courir le risque de se dévoiler, de rentrer en lien avec l'autre, de rougir aussi peut-être. Si après cette émission, il est encore certains d'entre vous qui n'osent pas engager la conversation dans un ascenseur, qui s'isolent dans une soirée ou qui se renferment dans un dîner, eh bien pas de panique, on reviendra sur le même thème au mois de mai avec plein d'exercices pratiques qui vont mettre KO cette fichue timidité. C'est tellement bon quand même de pouvoir se parler. Merci pour votre fidélité, merci pour les messages que vous nous laissez au 3210 et sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus dans la communauté dont on est fait pour s'entendre et place au sujet du jour. 1,5 million de personnes seraient surdouées en France, dont 370 000 enfants. Les enfants à haut potentiel sont-ils très différents des autres? Comment les accompagner? Comment les aider à s'épanouir? Une éducation spécifique est-elle conseillée? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Annie Gomez.
Bonjour Flavie.
Comment allez-vous Annie Gomez?
Toujours bien quand je suis ici, toujours. Mais d'ailleurs, je vais toujours assez bien.
Mais je crois qu'on doit vous trouver une petite place dans ce studio.
Absolument. Hein,
puisque vous avez votre carte un peu VIP, vous vous installez quand vous voulez.
Serviette.
Et pour des sujets qui sont passionnants, sujets dont vous avez décidé de vous emparer dans le magazine Maxi, actuellement en kiosque. La douance, je me suis battue pour répondre à leurs besoins. C'est le témoignage également de notre invitée, Célia Boris. Bonjour, bienvenue.
Bonjour,
sur
Flavie.
RTL, Célia. Vous êtes maman de deux enfants dits surdoués. Est-ce que vous connaissiez la problématique avant même d'avoir vos enfants? Est-ce que vous saviez ce à quoi vous pourriez peut-être un jour être confrontée?
J'en avais entendu parler. De là à ce que ça arrive chez moi, absolument pas.
Quel âge ont vos enfants aujourd'hui?
Aujourd'hui, 18 et 12 ans.
Comment vont-ils?
À peu près bien.
À peu près, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est pas tous les jours si simple, finalement, qu'on pourrait imaginer. Et que parfois, il y a des périodes où c'est très très bien, c'est super, joyeux, tout va bien. Et puis il y a des périodes où ça va beaucoup moins bien.
Comment pourriez-vous les décrire?
Des enfants atypiques, des enfants à besoins particuliers. Et puis qui ont une énergie débordante malgré tout et qui sont très très questionnants.
Très bien, et il faut leur répondre.
Je trouve que c'est important. Sans le savoir, sans savoir qu'ils étaient surdoués, je répondais à leurs questions et d'autant plus quand j'ai su qu'effectivement ils étaient surdoués.
Il en est une qui nous écoute, qui prend déjà des notes. On a l'impression d'être dans un cabinet. C'est Jeanne Soufachin. Bonjour, bienvenue Jeanne sur RTL.
Bah bonjour.
Pourquoi prenez-vous des notes? Parce que c'est votre dada.
Parce que ça m'intéresse, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et
vous
donc
êtes
voilà.
Psychologue, psychothérapeute, fondatrice et directrice des centres Cogitose, centre européen de psychologie intégrative, et puis un ouvrage également chez Odile Jacob, l'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. Alors déjà, quand on a des enfants, tous les enfants méritent évidemment qu'on pose un regard bienveillant, mérite d'être accompagné. Mais ces enfants-là, dont on pourrait penser qu'ils sont armés pour l'existence, font montre en réalité de grandes failles et de grandes fragilités.
Oui, mais merci beaucoup Flavie de parler de bienveillance, qui est vraiment cette idée de bénévolat, c'est vouloir du bien. Et en particulier pour tous les enfants qui peuvent, pour des tas de raisons, avoir un sentiment de différence et vivre dans un décalage. Et je crois que c'est surtout ça, et je pense que Célia sera assez d'accord avec moi, c'est effectivement cette perception d'un décalage avec ces enfants qui sont à la fois incroyablement puissants, qui ont une pensée qui est en effervescence, qui est en ébullition constante, avec ce besoin, comme il a déjà été précisé, d'être toujours avec des questions sur le monde, les yeux grands ouverts sur le monde, une hyper-réactivité sur tout ce qui s'y passe, avec une réactivité aussi émotionnelle importante, ce qui fait que ce sont vraiment des enfants qui n'ont pas forcément besoin qu'on fasse des choses spéciales, mais qui ont surtout besoin qu'on les entende, qu'on les comprenne pour ce qu'ils sont.
Voilà, qu'on sache en tout
Absolument.
Cas. Annie Gomez.
Oui, en fait, en tant que parent, enfin tous les parents qui nous écoutent, je pense, peuvent se dire que leur enfant est super éveillé. Et
On a beaucoup de témoignages dans ce sens-là.
La question, c'est à quel moment il faut vraiment s'interroger sur le degré de suractivité, le degré de curiosité. Parce qu'on a tous l'impression, on sait que tous nos enfants sont formidables, on a tous l'impression qu'ils sont surdoués quelque part. Or, c'est pas le cas.
C'est pas tout à fait
voilà.
pareil.
Et donc, je pense que c'est une question à poser, quoi.
Et c'est une question que je vais poser dans un instant à Annie Gomez sur cette antenne.
Oh là là, je vais trop.
Mais bon, je m'en vais. Je vais la poser à travers le témoignage de Christelle, justement. Dans un instant, je vais pouvoir lire le message qu'elle nous a laissé sur Facebook. Mais vous avez tout à fait raison, la question est là. Parce qu'on a le sentiment, en fait, qu'aujourd'hui, la douance, c'est quelque chose de super banalisé. C'est-à-dire que peut-être qu'on détecte plus les enfants dits précoces aujourd'hui, Jeanne.
Oui, parce
est-ce qu'il y en a plus qu'avant ?
Non, pas du tout. Voilà, il n'y en a pas du tout plus qu'avant. Il y en a 2,3% de la population. Donc ça, c'est statistique. Donc c'est à la fois un pourcentage qui est faible, mais en nombre absolu, ça fait beaucoup d'enfants qui sont concernés et beaucoup d'enfants qui sont scolarisés. Mais il n'y en a pas du tout plus qu'avant. Mais grâce aux médias, et je tiens à le dire, aujourd'hui, on s'en préoccupe plus et on comprend mieux et l'information est mieux diffusée.
D'accord. Très bien. On va se retrouver dans un instant. Je vais vous lire le message de Christelle. Et puis effectivement, alors sans poser de diagnostic, parce que ce n'est pas l'objet de cette émission, on verra si la petite Maggie correspond à ces enfants que l'on dit précoces. Et puis nous aurons également des témoignages de mamans qui nous parleront, notamment Nora et Cécile. N'hésitez pas, le 3210, les réseaux sociaux, vous pouvez poser toutes vos questions et on sera là pour y répondre. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Merci pour votre fidélité. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça explose sur Twitter, sur Facebook. On se dit, ah, tiens, super, des nouveaux copains avec lesquels on va pouvoir échanger, partager nos expériences. Et puis surtout, chaque jour, vous nous faites grandir. Vous nous élevez aussi avec vos points de vue et tous les échanges passionnants qui ont lieu tout autour d'En effet pour s'entendre. Aujourd'hui, nous parlons donc des enfants dits surdoués, précoces. Jeanne, comment est-ce qu'on pourrait les définir ? Qu'est-ce qu'il faut dire au sujet de ces enfants ?
C'est
difficile
que...
parce qu'on les fait rentrer dans une case un peu.
Oui,
là,
bien sûr. Et on a du coup cette espèce d'impression de stigmatisation. Et cette terminologie est compliquée parce que ce ne sont pas des enfants précoces dans le sens où il n'y a pas un développement précoce particulier, même s'il peut être. Il peut exister, mais quand on parle de précocité, c'est comme une puberté précoce. Il y a un moment où tout le monde est pareil. Si on parle de surdoué, ça donne un peu cette sensation qu'on a quelque chose en plus
que les
autres. Aujourd'hui, la mode est plutôt haut potentiel, mais avec cette idée que si on a un potentiel, alors nous devons de l'exploiter. Moi, c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai choisi le zèbre pour m'échapper au sens propre, au sens figuré de tout ça. Mais je crois que de toute façon, on parle toujours des mêmes enfants, quelle que soit la terminologie. Et ça, c'est important parce que quelquefois, les personnes peuvent se dire « Oui, mais alors est-ce que précoce, surdoué, zèbre, au potentiel, c'est pareil ?» Oui, au Québec, ils parlent de douance. Mm-hmm. Hein, ça, c'est la terminologie québécoise. Mais on parle de ces enfants atypiques, comme ça a été dit, qui ont effectivement beaucoup de caractéristiques spécifiques.
En tout cas, vous êtes psychologue, vous êtes psychothérapeute et vous êtes également auteur d'un ouvrage « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir » aux éditions Odile Jacob. Dans ce studio également, Célia, qui est la maman de deux enfants zèbres surdoués, en tout cas ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont Tom et Léa. Et puis Annie Gomez, vous la connaissez Annie Gomez.
Elle est très bavarde.
C'est la super directrice de la rédaction du super magazine Maxi. Un message qui nous est arrivé de Christelle. Je ne vais pas pouvoir tout lire parce qu'il est très très long. Néanmoins, elle nous parle de leur fille, Maggie. Maggie, à 2 ans et demi, ses deux mamans un peu désemparées par des colères inexpliquées, des pleurs incroyables devant un dessin animé ou en écoutant une musique, qui cherche sur Google « symptômes enfant précoce ». Maggie sait marcher avec de l'aide à même pas 9 mois, reconnaître toutes ses lettres à 2, lire ses premières syllabes à 4 et savoir lire parfaitement à 4 ans et 10 mois. Maggie sait devoir passer du temps sur Google, sur notre lieu de vacances, parce qu'il faut connaître tous les noms des dinosaures. Maggie s'est décidée que non, elle ne fera pas sa communion parce que cette histoire avec Jésus, c'est bizarre et c'est incohérent. C'est aussi sortir du cinéma en larmes, car hypersensible aux grands moments d'émotion, Maggie sait devoir lui trouver des difficultés ailleurs qu'à l'école pour qu'elle sache ce qu'est l'effort d'essayer de réussir, mais également d'échouer. Alors, sans poser de diagnostic, là, le petit phénomène là dont on nous parle, est-ce qu'elle peut correspondre à ces enfants dont on parle aujourd'hui, qui sont les enfants surdoués?
Oui. Alors, évidemment, pas de diagnostic.
On est d'accord.
Mais évidemment, des hypothèses qui peuvent vraiment faire penser à un tableau clinique, comme on dit dans mon métier, qui peut correspondre à ça. Mais attention, ce ne sont pas des symptômes, parce qu'être surdoué n'est pas une pathologie.
Ça n'est pas une maladie, absolument. Absolument, vous avez raison de le préciser. Alors, donc, on entend que Maggie a des facilités. Bon, ça, c'est une évidence. On entend aussi des colères. On entend aussi une hyper-émotivité. Est-ce que ça, c'est quelque chose, Célia, que vous reconnaissez
L'émotivité, oui.
Dans l'histoire de vos enfants.
Elle perdure.
Elle perdure, elle est peut-être moins criante, effectivement, quand ils grandissent. Mais quand ils étaient petits, oui, c'était là. Les deux sont restés très accrochés, très jeunes, très longtemps. Donc on se disait même, à 3 ans et demi, qu'est-ce qu'on va faire de notre petite fille? Donc, on l'a inscrite à l'équitation pour qu'elle puisse s'ouvrir aux autres, accepter d'aller vers l'inconnu, parce que c'était très compliqué.
Est-ce que c'est une émotivité, Jeanne Siofachin, qui pourrait s'apparenter à pour certains qui ne connaîtraient pas, une forme de sensiblerie?
Oui, mais
oui, c'est plus hypersensibilité au monde.
Oui, d'accord. Hypersensibilité au monde, je suis d'accord. Flavie, sensiblerie, ça a un côté un tout petit peu péjoratif, donc j'enlève.
C'est la raison pour laquelle je vous dis, les gens qui ne comprennent pas pourraient dire, cet enfant, c'est de la sensiblerie, il a les larmes qui montent aux yeux. Exactement, voilà. Mais pour ceux qui ne comprennent pas.
C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs de ces enfants-là et de ces adultes, où on leur dit, tu es trop sensible, tu te fais du souci pour rien, pourquoi tu te préoccupes de ça? Et les colères, c'est souvent lié au fait que ces enfants-là, ces ados-là et ces adultes-là, ce sont des personnalités qui sont très sensibles à un certain nombre de valeurs, dont par exemple l'injustice, qui peuvent les mettre dans des états émotionnels au-delà de tout, c'est-à-dire que ça devient érectile, avec de la chair de poule, et ça peut les mettre dans des états où plus rien ne va pouvoir les contenir. Et effectivement, ça fait des crises émotionnelles paroxystiques, parce qu'ils ne supportent pas, d'où effectivement une difficulté et à la maison, et à l'école. Parce qu'à l'école, il suffit que la maîtresse, l'enseignant, le prof, soit désagréable avec un autre enfant et que cet enfant-là considère que c'est injuste et qu'il n'avait pas à, que l'enseignant n'avait pas à avoir ce comportement-là, c'est un drame.
Alors, dans un instant, je vais vous donner la parole à Annie Gomez.
Bah, j'ose plus.
Et puis, on va accueillir également Nora. Nora qui patiente, je suis persuadée qu'elle bouillonne de l'autre côté du téléphone en disant « Oui, je connais très très bien cette problématique. » À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Tout va bien, je vais bien. Vous êtes sur RTL, nous sommes en direct jusqu'à 16h. Un tweet que nous avons reçu de Catherine. Décalé, c'est le mot approprié. Nous parlons aujourd'hui des enfants surdoués. Mon fils Elliot est le grand Charlie. Les profs disent bizarre, particulier, très solitaire, indépendant. On ne comprend pas toujours les enfants dotés de douance, comme on dit au Québec. Très joli mot, la douance. On en parle avec Nora qui nous attend depuis quelques minutes, je sais. Nora qui est en ligne avec nous. Bienvenue sur RTL. Et 1, 2, 3, sur RTL,
oui.
Nora.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'avoir patienté. Vous êtes maman au foyer, quel beau métier. Métier courageux. Vous êtes maman de 3 garçons de 14, 11 et 8 ans. Tous les 3 ont été diagnostiqués.
Tout à fait, oui.
À quel moment?
Ça a commencé par le cadet. Quand il était en moyenne section, il avait 4 ans. Ça se passait mal à l'école. En fait, il retournait toute la classe, quoi. Enfin, il était très, très agité. Et donc, sa maîtresse m'avait dit qu'il avait un gros problème psychologique, qu'il fallait l'amener chez un psychologue. Et donc, ce que j'ai fait, la psychologue l'a trouvé tout à fait adorable, intéressant. Et elle m'a simplement dit, il a simplement l'air d'être particulièrement en avance, il faudrait peut-être le faire tester. Mm-hmm. Ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et donc, il s'est avéré qu'il était très haut potentiel. Mm-hmm. Et le psychologue qui l'a testé m'a dit qu'il fallait absolument lui faire sauter une classe parce qu'en fait, il s'ennuyait, quoi. Et c'est pour ça qu'il était aussi agité en classe. Et l'école a refusé. Elle était donc dans le déni total. La psychologue scolaire l'a observé en classe. Elle m'a dit qu'il n'avait rien à un enfant surdoué. Et donc, ils ont refusé. Et donc, ça a traîné comme ça jusqu'en CE1. Ça se passait mal chaque année. Chaque année, il était très agité. Mmh. Il a appris à lire avec moi en 2 leçons sur une méthode de lecture à la maison. Et donc, il n'a jamais travaillé à l'école. Ouais. On a fini par lui faire sauter une classe en CE1 parce que c'était une catastrophe. J'ai fait intervenir une association, la FEP, pour ne pas la nommer. Il est passé de CE1 en CE2. Son comportement s'est calmé. Mais par contre, il n'est jamais rentré dans les apprentissages. Il est toujours en échec scolaire. Et maintenant, il est en 5e. Et c'est très difficile, très douloureux pour lui. Pour lui, c'est un parcours très, très douloureux.
On va parler de ses frères aussi, si vous le voulez bien. Et puis après, on en parlera tous ensemble. Déjà, il faut l'entendre. Lorsqu'un enfant est diagnostiqué dans une fratrie, on fait diagnostiquer le reste des enfants. Et ça a été donc le cas de ses frères. À quel moment avez-vous procédé justement au diagnostic ?
Pour l'aîné, je l'ai fait diagnostiquer quand il était en CM2, parce qu'il n'avait pas de problème particulier. Lui, il est dyslexique, avec une tendance Asperger, donc il avait ses difficultés de
Il avait quand même un petit truc...
Il était très en avance au niveau moteur quand il était petit. Il se tenait debout à 4 mois, il marchait à 4 pattes à 4 mois, il a marché à 9 mois, très en avance en maternelle. Et puis après ça, rentrer au CP, ça a été plus difficile. Une lecture qui a été très difficile pour lui puisqu'il est dyslexique.
D'accord.
Donc ça a compensé sa précocité. Donc c'est passé un petit peu inaperçu. Mais je l'ai fait quand même tester en CM2. Et donc il s'est avéré qu'il était aussi très haut potentiel. L'année suivante, je me suis dit, je vais faire tester le petit puisqu'il rentrait au CP. Donc il savait lire. Lui, il a appris à lire tout seul. Je ne sais pas comment il a appris à lire. C'est un jour, je lui ai dit, t'as qu'à lire tout seul, et il a lu tout seul. Donc voilà. Et donc il a été testé au CP. Et voilà, lui le petit, il est totalement dans l'apprentissage, il adore l'école, il a plein de copains, il a des amoureuses, il est constamment invité à tous les anniversaires, ça se passe très bien à l'école. Et en fait, le gros problème en ce moment, c'est entre le second, donc qui est en échec scolaire et qui a une très très mauvaise image de lui-même, et le petit qui réussit très bien. Et donc le second est constamment en train de chercher le petit en le traitant d'abruti, etc. Le petit est hypersensible, évidemment, donc la moindre réflexion, ça le met dans un état pas croyable, et c'est des disputes, stop. Donc, je n'arrive plus à gérer. Voilà pourquoi j'appelais.
Alors, très bien. Alors, écoutez, déjà, on reviendra sur tout ce que vous nous avez dit. Donc, la douance, c'est génétique. Hein, Jeanne, très rapidement.
Oui, absolument.
Voilà, on le dit, c'est génétique.
C'est génétique. Ça ne veut pas dire qu'un papa et une maman surdoués auront une ribambelle d'enfants surdoués, mais la composante génétique est indéniable.
Ça veut dire que ça peut sauter une génération ?
Ça peut sauter une génération et ça peut être avec des collatéraux.
Nora, vous l'êtes aussi diagnostiquée ?
Tout à fait, oui.
D'accord,
oui.
OK. Bon. Alors, déjà. C'est marrant, tiens, Jeanne qui dit ça s'entend.
À quoi ça s'entend
À la façon dont Nora parle de ses enfants, à l'empathie qu'elle a par rapport au vécu de ses enfants, à la sensibilité qui émane de ses propos, à la souffrance qu'on ressent bien dans le ton de sa voix, etc. Enfin, un certain nombre de signes comme ça.
On reviendra sur le fait qu'il y a beaucoup de 10, hein, dyslexiques, 10 qui accompagnent aussi la douance. Maintenant, je voudrais qu'on réponde vraiment à la question de Nora, c'est important. Elle nous explique que, aujourd'hui, à la maison, le cadet qui est en échec scolaire, ce qui veut dire aussi qu'être surdoué ne veut pas forcément dire être dans la réussite forcément à l'école. Mais voilà, le cadet qui est en réussite scolaire s'en prend au petit dernier qui, lui, est dans l'apprentissage hyper open, qui a plein de copains et compagnie. Est-ce que ça, ce sont des disputes classiques ? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des disputes entre frères et sœurs. Hein. Non, mais c'est vrai, on se met dessus quand
bien
même
sûr,
dans
bien.
Une fratrie. Ou est-ce que ça peut être lié à la douance ?
C'est-à-dire que je peux répondre les deux, Flavie ?
Oui. Oui,
alors
bien
je
sûr,
réponds déjà
vous pouvez
les deux.
Les deux, vous
et
avez
après,
une minute
et
puis après je vous redonnerai un petit peu plus de temps.
Merci.
Voilà.
Et ensuite, je crois que c'est finalement c'est le grand. Il exprime quelque chose de l'ordre de sa souffrance et que c'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire que le grand, il souffre des difficultés qu'il a lui et le petit devient un bouc émissaire. Et finalement, quand il est en colère contre le petit, c'est plus presque des signes d'amour. C'est-à-dire un peu comme s'il voulait absolument devenir comme ce petit frère qui finalement lui renvoie l'image de ce que lui voudrait être pour être quoi ? Aimé de sa maman à fond. Parce que finalement, dans la vie... C'est la seule chose dont on a vraiment besoin, c'est de se sentir aimé et appartenir.
Mais Nora ne fait pas forcément de différence, vous voyez ce que je veux dire.
Bien
on
sûr,
a des enfants
bien sûr
qui sont
Nora,
plus faciles que d'autres, mais c'est toujours
Nora difficile. Nora ne fait pas de différence au niveau de l'amour, mais par la force des choses, on n'a pas le même comportement quand on est parent avec un enfant qui est en difficulté, avec un enfant qui fonctionne bien. Et ce n'est pas une question de quantité d'amour, c'est simplement que l'aîné essaye absolument d'attirer l'attention. Ce n'est pas une question de la maman, c'est la façon dont l'enfant le vit.
Nora, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Oui.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Votre sujet m'interpelle vraiment beaucoup, nous écrit Nathalie, qui est à notre écoute. Mon petit Gabin de 4 ans et demi est suivi par une psychologue suite à une demande de la maîtresse. Gabin enregistre tout du premier coup. Il est très sensible, il n'arrive pas à rester en place à l'école. Nous avons pensé effectivement qu'il pouvait être précoce, mais personne ne veut l'entendre. Que faire ? Dans un instant, nous parlerons donc du diagnostic avec vous tous. Mais auparavant, et avant de poursuivre nos échanges avec Nora, Célia, comment ça se passe entre vos enfants ? Parce qu'ils ont 18 et 12 ans, ils sont tous les deux, c'est posé, ça y est, on sait qu'ils sont surdoués. Est-ce qu'ils s'entendent bien ou est-ce que, aussi comme tous les frères et sœurs, ils ont une tendance à se mettre un peu dessus ?
Il y a des périodes où ça va être bien parce que le grand, finalement, va donner des conseils de musique à la plus jeune. Il va lui montrer sur Facebook telle et telle chose ou sur Instagram. Enfin, voilà. Mais à d'autres moments, c'est comme frère et sœur. Hein, ils ne s'entendent pas forcément, ils se disputent. Enfin.
Comment faire la différence entre ce qui peut tenir de la douance et ce qui, finalement, réunit des frères et sœurs comme les autres ?
Moi, je trouve que la différence, vraiment, c'est l'hypersensibilité.
D'accord.
Parce que la valeur des mots pour chacun est importante.
Très bien. Un indice. Jeanne Siofacha, Annie Gomez, vous pouvez parler quand vous voulez, Annie. Parce que je suis pas sûre d'avoir
je suis totalement
Annie
traumatisée.
Gomez.
Je suis punie, je suis au coin. Ce vous plaît, venez me délivrer.
Toujours ouvert pour vous. Mais non, mais j'imagine.
Non, mais c'est
que...
très intéressant tout ça.
Et que vous vous posez les mêmes questions
bien
que moi,
sûr,
parce que
bien
vous
sûr.
Y êtes intéressée dans le magazine
bien
Maxime.
Bien sûr, dans le magazine, et puis aussi parce que je suis dans la vie comme nos auditrices, nos auditeurs, et que c'est vrai qu'on se demande toujours où est la ligne, voilà, où est la frontière entre. C'est un enfant normal et ça peut être un enfant précoce
différent.
Différent.
Alors, on est en ligne avec Nora. On ne peut pas remettre tout sur le compte aussi de la douance dans les rapports entre frères et sœurs.
Bien sûr que non. Hein. Dans toutes les fratries, il y a des rivalités et ça existe partout pour tous les enfants. Mais peut-être que pour ces enfants-là, la différence, c'est cette notion d'intensité. C'est-à-dire de ne pas pouvoir lâcher et d'avoir cette espèce d'urgence, d'aller jusqu'au bout, de pouvoir tout expliquer, de pouvoir essayer de tout comprendre. Cette espèce de besoin
d'être assasié.
Oui, d'être assasié.
Mais ce que nous explique Nora dans la dispute entre ces deux enfants, c'est que le petit, pour lequel les choses sont plus faciles, invisiblement Nora, est un enfant qui, en plus de ça, est doué d'une très grande sensibilité. Donc, ça veut dire que j'imagine que dans ces relations, vous avez peur qu'à un moment donné, ça ait un impact négatif sur lui ?
Lui, il est très doué pour les autres. Oui. Je pense que ça, c'est sa force à lui.
Oui. Et qu'est-ce qui vous inquiète dans le rapport entre vos enfants?
C'est non-stop. Ce qui est plus inquiétant, c'est la part du cadet qui est
d'accord.
Constamment. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie Fachin sur ce qu'elle disait. Mm. Justement, enfin, ça m'a fait monter les larmes aux yeux quand elle parlait de l'amour de la maman. Lui, il est constamment dans le non, alors que son petit frère est constamment dans le oui. Mm. Quand je propose quelque chose, le grand va dire non, et donc le petit va dire oui tout le temps. Et donc forcément, moi, j'ai pas du tout la même attitude face à un enfant qui me dit non tout le temps. J'ai tendance à me fâcher aussi. Donc forcément, oui, ça lui renvoie quelque chose de « maman m'aime pas ». Mais en même temps, c'est comment ne faire pour ne pas lui renvoyer ça alors que lui me renvoie aussi le négatif constamment. Quoi.
Et ça, c'est aussi les rapports normaux, hein, les mamans avec leurs enfants qui rentrent dans l'adolescence. Il y a aussi la période du non. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même super difficile à un moment donné d'avoir cette notion en plus de précocité au milieu des rapports humains. Quoi. Il faut savoir en tenir compte, mais il ne faut pas être rigide non plus complètement
par ça. Bien
ça,
sûr
hein,
que
Jeanne.
Non. D'abord, parce que, on l'a déjà dit, mais ce n'est pas une pathologie, c'est une particularité de fonctionnement qui peut donner, c'est très intéressant le témoignage de Nora, parce qu'on voit bien deux enfants très typiques dans cette catégorie d'enfants. C'est-à-dire
et différents.
Voilà, justement, des enfants chez lesquels, comme chez le petit, chez lequel ça donne énormément de puissance, de force, de réalisation, d'accomplissement, de réussite, de plaisir à vivre, de charisme. Parce que ce sont des enfants qui sont très charismatiques, qui sont des leaders, qui sont des entrepreneurs, qui sont des créateurs, qui sont des visionnaires aussi pour certains d'entre eux, c'est-à-dire vraiment qui ont ces capacités incroyables. Et le cadet, qui non seulement effectivement a ce diagnostic de haut potentiel, mais qui en plus a des troubles associés,
oui.
Ce qui est assez fréquent chez ces enfants-là. Donc c'est effectivement, il y a une espèce de mélange.
C'est une épreuve supplémentaire.
Et bien sûr.
Ça se rajoute en fait. Ça se rajoute parce qu'effectivement, pour eux, c'est un petit peu plus complexe parce que, en tout cas, ils peuvent être diagnostiqués avec des troubles un peu plus tardivement, majoritairement, que d'autres parce qu'ils ont eu cette compensation possible. Alors
oui.
que d'autres ne pouvaient pas, mais ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas exprimer leur potentiel de la même façon.
Alors là, je.
Mais chez les trois, excusez-moi.
Nora, je
chez les trois, il y a une terrible angoisse de l'échec. Ça, c'est un point commun à mes trois enfants. Un échec, pour eux, c'est une catastrophe. Et un échec, ça peut être quelque chose de tout petit. Moi, je me souviens de plus jeune, par exemple, un jour, il devait réviser son autodictée pour le lendemain. Il est resté bloqué pendant 2 heures sur la première lettre du premier mot. parce que le L majuscule n'était pas parfait. Il en a pleuré, il se roulait par terre. C'était rien. Mais pour lui, ça devient une proportion énorme. Et les trois sont comme ça.
L'exigence, la peur de l'échec,
c'est l'exigence et le perfectionnisme, ce sont aussi des caractéristiques, mais une fois encore, on peut le retrouver aussi chez d'autres enfants. Hein, c'est une fois encore là où il faut être bien clair autour de ce qui relève du haut potentiel et ce qui relève de la personnalité des enfants.
On parlait du diagnostic, on va y revenir dans un instant avec Nathalie et Pascal qui sont déjà en ligne avec nous. Nora, on vous embrasse. On vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses, de la détente, de la rigolade, et puis que vos enfants soient heureux.
Mais c'est très gai aussi à la maison. Hein,
ah mais ça j'imagine. J'imagine très bien. Et puis en tout cas, merci pour votre éclairage parce qu'on se rend compte à quel point aussi les enfants sont différents. Il n'y a pas de portrait robot et portrait type. On vous embrasse. À bientôt, Nora.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Mon fils de 7 ans a été diagnostiqué précoce. Je voudrais savoir ce qui est prévu au sein de l'éducation nationale pour accompagner ces enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires, nous demande Sonia. Sonia, nous allons tenter d'aborder ce sujet-là dans quelques instants. Mais auparavant, si vous le voulez bien, nous allons parler du diagnostic. Diagnostic précoce pour enfants précoces. C'est déjà un gageur. C'est pas quelque chose facile à faire. On va accueillir déjà Nathalie sur cette antenne. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Merci de nous appeler de Flavie. Toulouse.
Oui.
Alors vous, vos enfants ont été diagnostiqués tard. Quel âge avaient-ils ?
Tard pour le grand, il est rentré au CE1.
Oui.
Et le deuxième, c'était en dernière année de maternelle.
Et pourquoi considérez-vous que c'est tard ?
Non, c'est pas spécialement tard. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait de gros, gros soucis à l'école.
Oui.
C'est qu'en fait, ces enfants, on les comprenait pas. Nous, on avait l'impression d'avoir fait deux enfants bizarres, toujours agités à l'école, et montés sur les tables. Enfin,
c'est pas facile.
Des choses qu'on comprenait pas. Et du coup, en fait, on était toujours en conflit avec eux par rapport à leur comportement.
Oui, je comprends.
Et on les récompensait jamais pour leurs résultats scolaires qui sont excellents. Et alors, on les a emmenés chez une psy. Parce que les maîtresses les punissaient tout le temps.
Ah, c'est difficile.
Et en fait, la psychiatre m'a dit, et là, ça a été terrible, elle m'a dit, vous ne comprenez pas vos enfants. Et là, moi, j'ai pleuré pendant des mois parce que je me suis dit, je suis passée à côté de tout, j'ai rien vu. Mm. Et en fait, ils ont fait des tests, donc ils ont été diagnostiqués, le grand Marius, qui a maintenant 11 ans, est beaucoup plus calme et posé en classe parce qu'il se comprend lui aussi, en fait.
Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites. Je vais rebondir rapidement parce que vous savez qu'on est en direct, ça y va sur RTL.
Ouais.
Célia, la culpabilité des parents qui ne comprennent pas leur enfant un temps, qui en tout cas ont du mal à saisir leur mode de fonctionnement,
que
c'est quelque
normal.
Chose de
c'est
normal.
Vrai que quand c'est le premier, en tout cas, on découvre.
Mais qu'est-ce
déjà,
que c'est douloureux
mais
en
voilà,
même temps.
Qu'est-ce qu'on apprend
c'est
On
pas
apprend
juste.
À être parent et puis à la fois quand on a un enfant particulier, il faut le découvrir aussi. Donc,
Nathalie, on apprend tous à être parent, je vous rassure. Mais je comprends ce que vous voulez dire.
Le petit, il avait au niveau du QI est plus haut que son frère en ayant 4 ans de moins.
Ouais,
donc il va être diagnostiqué encore plus tard.
Ouais,
et c'est très très compliqué au quotidien aussi parce qu'ils sont très demandeurs et l'école ne les comprend pas du tout quoi.
Alors, Jeanne, sont des enfants, ils sont insatiables. Hein, c'est ça, en fait. La difficulté aussi pour les parents, c'est de les nourrir.
Oui, ils sont insatiables et c'est d'ailleurs comme ça que souvent on est alerté par l'école parce qu'effectivement, ça peut être des enfants qui ont d'excellents résultats scolaires, mais qui par ailleurs peuvent se sentir en difficulté et avec les autres et dans leur lien avec les autres et dans le rythme scolaire parce qu'ils n'ont pas le même rythme et ils ont besoin effectivement d'être dans une espèce d'action et d'urgence d'accomplir et de faire. Et c'est ce qui alerte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, il faut faire attention, ce ne sont pas des enfants. Enfin, je répète, les parents ne consultent pas parce qu'ils pensent que leur enfant est surdoué, que c'est un génie. Ils consultent parce qu'il y a une difficulté qui se joue sur le terrain de l'école et c'est ça qui alerte. Et les parents ne sont pas coupable. Chaque parent fait ce qu'il peut. On n'a pas à dire ça à des parents.
Et du mieux qu'il peut.
Et du mieux qu'il peut, évidemment. Et comme tous les parents, je suis désolée, Nathalie. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais je suis obligée de vous embrasser.
Parents, oui. Voilà, quand l'enfant est très agité en classe, tout ça,
s'interroger.
Essayer de comprendre le pourquoi.
Très bien.
Pas forcément.
Très bien.
On a découvert nos enfants parce qu'ils étaient très agités en classe. Quoi.
Et eux se sont découverts aussi. Et d'ailleurs, ça va
et
mieux
ça
maintenant puisqu'ils s'apaisent.
Énormément
très bien.
De bien.
Je vous embrasse, Nathalie.
Merci
à bientôt.
Beaucoup,
au revoir.
Au revoir.
Pascal est en ligne avec nous. Pascal, je parlais tout à l'heure donc de diagnostic tardif. Alors là, pour le coup, pour le vôtre, ça a vraiment été le cas. Votre fils a été diagnostiqué à l'âge de 25 ans ?
Oui, tout à fait. Oh 25 ouais. ans. Et donc, oui. Même problème que tous les témoignages. Un enfant perturbé, un enfant hypersensible, excellent à l'école. Mmh. Mais c'était de notre faute. On ne savait pas l'élever. Voilà. Donc, il y a 25 ans, il était tellement mal dans sa peau qu'à 25 ans, il a dit je vais voir. On avait vu des psychiatres, des psychologues. On remettait toujours notre éducation en cause. Mmh. Et quand il a consulté et que là, on lui a dit qu'il était adulte à haut potentiel, eh bien, ça a été tout de suite beaucoup mieux.
Ah, c'est bien ça. Donc c'est important, ça l'a révélé à lui-même aussi que de savoir, même à l'âge de 25 ans.
Bah, c'est-à-dire qu'il voyait qu'il était différent.
Ouais, c'est difficile.
Mais en même temps, il ne savait pas pourquoi. Et puis on était perpétuellement en conflit parce que nous, on nous disait que c'était notre éducation qui ne convenait pas. Donc nous, on ne faisait pas comme on avait envie de faire, si vous voulez. Donc nous, on faisait, mais finalement, on faisait très mal. Donc on était en conflit permanent. Et à partir de ce moment-là, finalement, nos relations étaient beaucoup plus sereines. Et puis maintenant, il a 30 ans. Il a toujours la même sensibilité, il est toujours haut potentiel, mais il est heureux. Il est heureux de vivre et puis nous, on est heureux de le voir heureux.
Bon, ça c'est génial. Ce que vous vouliez nous expliquer, c'est qu'en écoutant tous les témoignages auparavant, vous réalisiez qu'il y avait des mamans qui étaient accompagnées aujourd'hui et qu'on en parlait beaucoup plus qu'à une époque et que vous avez été condamnée à une forme de solitude et d'inquiétude.
Mais total. Et même les enseignants, même les psychiatres, même tous les gens qu'on a vus, personne ne nous a jamais orienté dans ce sens-là. Si vous voulez. Et on s'est vraiment senti isolé.
Bon. Eh bien, écoutez, le message est passé. Je vous remercie de nous avoir éclairé de votre expérience, Pascal. Et puis,
je vous souhaite
plein de bonnes choses avec votre fils.
Oui, c'est super. Merci beaucoup, Flavie.
Je vous embrasse.
Merci, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Que de témoignages qui nous arrivent. Alors, je tiens à préciser à tous nos auditeurs qui s'interrogent sur la prise en charge, l'éducation nationale, l'éducation des enfants, l'enseignement des enfants précoces, que nous allons caler au sortir de cette émission une date pour le mois de mai et pour pouvoir répondre spécifiquement à toutes ces questions-là. Et puis, vous en parlerez dans le magazine Maxi en plus, Annie Gomez, puisque tous les sujets qui nous intéressent vous intéressent et vice versa.
Bien sûr.
Annie Gomez, vous inquiétiez en début d'émission sur l'intérêt du diagnostic précoce, sur ces signaux qui doivent alerter. Et là, on vient d'entendre des témoignages, par exemple celui de Pascal qui nous explique à quel point elle était seule et isolée.
Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent écouter, qui doivent d'abord se culpabiliser d'office en se disant « mais peut-être que je ne fais pas bien » parce que tout bon parent doit se poser des questions en permanence. Et c'est vrai que la question, c'est à partir de quel moment j'emmène mon enfant, qu'il est 3, 4, 5, 7, chez un spécialiste ou dans les centres de Jeanne. Moi je sais que c'est une question, je pense que la majorité des gens se posent. Parce que
tout à l'heure, on écoutait un témoignage, c'était celui de Nathalie. Son fils a été diagnostiqué en CE1 et vous avez trouvé que c'était pour le coup dans des
Ce sont des âges raisonnables au primaire, parce que c'est effectivement à ce moment-là que les premières sensations d'étrangeté, de différence, de décalage peuvent apparaître. Voilà. Mais on peut poser des diagnostics à tous les âges et c'est important de poser des diagnostics à tous les âges, y compris à l'âge adulte. Moi, mon plus vieux patient a 82 ans et tous les ans pour mon année, à 82 ans.
Il a pris à 82 ans.
Et tous les ans, il m'envoie un bouquet de fleurs pour mon anniversaire en me disant, peu importe le nombre d'années qui me reste à vivre, mais tous les matins, mon jardin est éclairé alors que jusqu'à maintenant, j'avais une espèce de voile qui était sombre sur ma vie. C'est-à-dire cette sensation qu'un voile se déchire et que les enfants comprennent enfin ce qui fait qu'ils sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont autrement... Enfin, qui sont particuliers ou qui sont... Mais
c'est une révélation, en tout cas, c'est une façon, à un moment donné, d'être et de devenir soi-même vraiment, que de savoir.
Oui, c'est savoir où on est, c'est savoir qui on est pour savoir où on va, et c'est ça qui change tout.
Oui, c'est Lia.
Même notre relation aux autres, parce qu'une fois qu'on connaît ces particularités, finalement, on interagit mieux avec les autres. Alors que quand on est dans le doute et qu'on se dit « mais je suis différent, mais ça va pas, mais pourquoi je comprends pas la même chose que les autres ?» Ça m'intéresse pas. Et finalement, on se dit, mais c'est moi qui suis bizarre. Mais il n'y a pas de bizarrerie finalement, c'est simplement un mode de fonctionnement qui est différent, une appréhension au monde qui est particulière. Voilà, quand on le sait, ben, on vit autrement, c'est tout, on aborde les choses différemment.
On a un tweet qui vient de nous arriver de Ruben. Vous me faites peur, j'ai l'impression que vous parlez de ma fille, ce serait donc ça. Alors bon, il y a l'intérêt, et c'est ce qu'on dit, du diagnostic précoce. Mais vous me faites peur. Alors c'est vrai qu'on explique depuis le début de cette émission, c'est super important de le dire aussi, que ce sont des enfants qui ne sont pas voués forcément à une immense réussite personnelle, professionnel, d'études, voilà. Il est des enfants qui rencontrent des échecs et il faut savoir s'interroger. Qui doivent en plus de ça avoir développer des 10, dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie, etc.
Mais ce sont des enfants passionnants, ce sont des enfants joyeux, ce sont des enfants insatiables, ce sont des enfants qui sont gourmands. La vie est aussi une vie peut-être plus colorée dans tous les sens du terme. On a des grandes émotions, on a des grandes tristesses, on a des grandes joies, enfin... Ça peut être dans l'existence, on peut quand même expliquer que ça a du bon aussi, non ?
Oui, oui, Flavie, absolument.
C'est un art de vivre.
C'est un talent de vivre et il y a beaucoup d'enfants ou d'ados ou d'adultes qui ne sont d'ailleurs jamais diagnostiqués, qui vont très bien, qui vivent des vies passionnantes, qui vivent des vies engagés, qui vivent des vies d'accomplissement. Et effectivement, il y en a d'autres qui, pour les mêmes raisons, et c'est ça qui est paradoxal, qui, pour les mêmes raisons, rencontrent des difficultés sur leur parcours. Et c'est pour cela qu'il faut être attentif, bienveillant, pour reprendre votre terminologie du début d'émission, et comprendre pour accompagner.
Célia,
Moi, je trouve que c'est important de savoir, parce que quand on ne connaît pas, finalement, on avance à l'aveugle. Ouais. Alors que quand on sait, eh ben, on peut davantage avancer comme on en a envie, parce qu'on se connaît.
Mais est-ce que ce sont aussi des personnes qui, à un moment donné, vont embellir la vie, quoi ? Je ne sais pas, vont y mettre un punch qu'on...
Mais ce sont des visionnaires, ce sont des talentueux, des personnes incroyables.
Mais pour parler de la vie avec des personnes très précoces. Voilà.
C'est toujours très énergique, effectivement. C'est pas... On rentre dans une famille avec des précoces, c'est pas le silence absolu, c'est pas possible. Mm-hmm. C'est toujours très remuant, c'est toujours très vivant, c'est toujours...
Voilà. C'est toujours très créatif aussi.
Mais fatigant aussi un peu, non ?
Alors,
c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie à revendre.
Alors, fatigant pour qui ?
Ouais. Bah, un peu pour les parents.
Pour les parents, mais par exemple...
Au début.
Oui, Célia, quand, toutes les questions qu'ils vous posaient, c'est-à-dire que vous, quand vous rentrez du boulot, vous avez juste envie de vous mettre sur le canapé. C'est des enfants qui sont assoiffés de connaissances et de curiosité. Comment vous faisiez pour répondre à tout ?
Alors, j'ai aussi, dans le cadre d'une association, où j'ai répondu à certains parents, que parfois, quand ils commencent à savoir écrire... Je leur disais, prenez un petit carnet et puis dites-lui, écris ce que toi tu as envie de savoir. Et puis il posait ses questions sur son petit carnet. Et puis après, quand la maman était disponible, ils pouvaient en rediscuter ou ils allaient à la bibliothèque ou ils allaient. Mais effectivement, de répondre comme ça continuellement, c'est tout juste pas possible.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi génial de se laisser entraîner par nos enfants dans des connaissances qu'on n'a pas forcément et de partir avec eux, parce que l'apprentissage ou la connaissance, c'est pas quelque chose d'épuisant.
Non, sauf quand on n'a pas les réponses, on sent un peu.
Oui, mais justement, tu peux les avoir, tu peux aller les chercher.
C'est pas grave. Il faut pas avoir l'illusion quand on est parents qu'on aura toujours les réponses. Au contraire, c'est génial de se dire on va chercher ensemble, on va les comprendre ensemble.
Et puis, c'est pas forcément au rôle des parents de pallier
bien
à
sûr
ça.
Non.
On peut peut-être aussi décomplexer tout le monde.
Déléguer.
Même l'enfant, lui apprendre une certaine autonomie, j'imagine.
Bien sûr. Et puis, de toute façon, tous les enfants ont envie de connaître, et cela, toujours, c'est pareil, un petit peu plus. Mm-hmm. Et donc, cette énergie de savoir, cette curiosité, qui n'est pas un vilain défaut, mais une magnifique qualité, ça pousse de l'avant, ça pousse vers l'ouverture du monde, vers une vision du monde en grand angle. Et moi, je trouve que finalement, les surdoués, c'est ça. C'est une ouverture sur le monde en grand angle.
Eh bien écoutez, vous savez quoi, nous c'est un petit peu l'objet de notre émission, hein. Toujours du grand angle, toujours une ouverture sur le monde, on a encore passé une heure passionnante, on se retrouve tout de suite, je vais aussi vous parler du programme de demain.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Merci pour tous vos messages, je vous promets vraiment que nous allons vous préparer, vous concocter une petite émission, je ne vous raconte pas, sur l'éducation des enfants dits précoces, surdoués, en tout cas l'enseignement. Ce sera une émission spéciale qui pourra répondre à toutes vos questions. On a encore passé un moment super, non ? Voilà, ça dure une heure, c'est sur RTL entre 15h et 16h tous les jours. On remercie Annie Gomez sous vos applaudissements.
Et Annie, je vous remercie chaleureusement.
Annie, merci de porter ce petit bracelet vert, qui est si important, le ruban vert pomme.
Je ne me quitte pas, toute la rédaction en a un maintenant.
Pour,
pour l'allongement de la prescription des crimes sexuels sur mineurs. Voilà, c'est écrit stop prescription. Si vous allez sur mon Instagram, vous aurez toutes les informations. Merci Annie.
Merci Flavie.
Je rappelle donc le magazine Maxi actuellement en kiosque. On remercie également Jeanne ici au Fachin. Merci beaucoup Jeanne. J'ai jamais dit Fachin, Fachin.
Fachin, le cheu, ça marche.
Le cheu, exactement. Je rappelle les centres Cogitose, Centre européen de psychologie intégrative, et votre ouvrage L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, chez Odile Jacob. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci
Jeanne.
Flavie.
Et puis Célia, vous embrasserez également Tom et Léa. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio. Demain dès 15h sur RTL en direct, nous allons nous intéresser à un joli vilain défaut. Vous savez ce que c'est ? C'est la franchise. Peut-on et doit-on dire tout ce qu'on pense ? La franchise peut-elle être délicatesse ? Un franc avec les autres accepte-t-il toujours qu'on le soit avec lui ? La vérité, je serai heureuse d'échanger avec vous demain sur le sujet. Ce sera dès 15h sur RTL. Ah, il y a déjà des avis dans le studio. Allez, tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Je suis Franche. Je serai heureuse de vous retrouver demain. Je vous embrasse.
Vous écoutez RTL.